Europe 1, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche. Toujours impossible de partir en balade. Nous sommes désormais 3 milliards à être confinés. Personne n'avait imaginé une chose pareille. Heureusement, il y a le téléphone. On peut prendre des nouvelles. Je vais donc appeler Philippe Geluck, Sylvie Testu, l'explorateur Jean-Louis Etienne, le romancier Philippe Genada, Mazarine Pinjot, l'humoriste Émeric Lompré, Mike Pietragala, Marie-Christine Barrault, Nicolas Santolaria. Leur demander comment ils vivent leur confinement et pour nous accompagner, nous écouterons quelques chansons prémonitoires qui nous parlaient du coronavirus sans le savoir. Allez, c'est parti.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Allô, Philippe Geluck.
Allô, Frédéric Taddeï.
Alors, lors de notre balade sur Europe 1 en novembre dernier, vous nous aviez emmené sur les Champs-Élysées, où devait avoir lieu à partir du 9 avril prochain une exposition du chat pharaonesque, des statues en bronze de 2,50 m de haut. Elle risque de se sentir bien seule, non ?
Oui, et puis on va avoir quelques problèmes pour l'installation, puisqu'on peut pas, voilà, on peut pas la transporter, on peut pas la déposer. Enfin bref, l'exposition est momentanément annulée. Mais comme deux, trois activités culturelles et artistiques en ce moment, je crois.
Quand les mesures de confinement ont été prises par le gouvernement français, vous ne l'avez pas pris contre vous, j'espère.
Mais c'est-à-dire que je vais vous raconter ce qui s'est passé dans ma tête depuis 2 ans. Quand j'ai annoncé que j'allais faire cette exposition sur les Champs-Élysées entre Concorde et le rond-point, là où Botero l'avait fait en 92, tout le monde a commencé à me dire « toi, tu n'as pas peur des gilets jaunes hein ?» J'ai dit, attendez, c'est que le week-end, et puis ça va se calmer, certainement. Et puis ça s'est calmé. Et j'ai pu leur dire, vous voyez, hein, on respecte mon projet. Et puis un peu plus tard, il y a eu les manifestations contre la loi des retraites. Et là, on m'a dit, mais t'as pas peur qu'ils viennent t'emmerder ou renverser tes sculptures là, sur les Champs-Élysées et tout. Je dis, attendez, oui, peut-être, ça m'a un peu énervé. Et puis ça s'est calmé. Et en décembre dernier, souvenez-vous, il y a eu une tension qui tout à coup s'est ressentie entre les États-Unis et l'Iran.
Je m'en souviens bien.
S'en souvient tous. Et puis ça montait, et je me dis, merde, ça va me tomber sur la gueule, il va y avoir une guerre mondiale pendant mon exposition sur les Champs-Élysées, ce qui me contrariait un peu. Et puis, grâce à cet avion qui a été abattu par mes gardes, la tension est retombée complètement, et je me suis dit, c'est bon pour moi. Enfin, je pense pour le monde entier aussi, mais en particulier pour mon projet. Et je me dis, là, maintenant, ça va le faire. Au mois d'avril, on fait l'expo. Patatras, coronavirus. Donc, je pense qu'il y a un mouvement mondial contre mon projet. Et ça m'attriste.
Comment le vivez-vous, ce confinement, puisqu'il a eu lieu en Belgique également hein ?
Bien sûr, nous sommes confinés. Nous sommes plutôt respectueux des règles. Je pense que les Belges sont un petit peu plus civique que ne peut l'être ce grand peuple ami qui vit au sud de chez nous. C'est accepté. Alors bien sûr, il y a les gens qui sont précipités sur le papier cul, comme chez vous, sur les boîtes de sardines, les boîtes de thon, etc. Ça, évidemment, on ne refait pas la nature humaine comme ça.
Vous l'avez fait vous-même ? Vous avez stocké ?
Non, monsieur. Alors même si le confinement fait chier certains, ce n'est pas une raison pour priver les autres du droit de se torcher. Non, alors moi j'ai pris au bureau parce que je travaille, je suis entouré d'une équipe dans mon atelier, j'ai mis tout le monde en télétravail plusieurs jours avant que les gouvernements ne le décident. Et je vais vous dire, voilà, moi j'ai l'impression d'être un gros privilégié parce que j'habite juste au-dessus de là où je travaille, donc je peux profiter de chez moi et de mon atelier. Et je descends à l'atelier tous les jours et je travaille tous les jours, mais je fais ça tous les jours de ma vie depuis 40 ans. Donc, on dit que je suis confiné depuis toujours, mais il n'y a pas un grand changement personnel. Mais je me fais du souci pour les autres.
Un peu plus au nord, vos voisins hollandais ont refusé le confinement. Seuls les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Ils tablent sur l'immunité de groupe. Une majorité de la population sera infectée et le virus s'arrêtera lui-même. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Les Suédois, c'est pareil. Vous les enviez ou pas ?
On se pose tous la question. Ont-ils tort, ont-ils raison ? Il y a un truc qui est un petit peu, qui a eu une démarche un peu couille molle, c'est Boris Johnson qui a commencé comme ça et maintenant qui a changé de trottoir. Comment pourra-t-on le savoir un jour ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il faudra attendre des mois, voire des années pour analyser tout ça et savoir qui a réagi le mieux du monde. Je pense que les Coréens du Sud sont un exemple de discipline, d'intérêt collectif, de port du masque.
Ben, ils en ont, eux.
Mais oui, Mais ils en avaient déjà avant. Ils l'avaient prévu. Nous, on porte des masques pour le Mardi Gras et pour le carnaval de Nice. C'est tout. Non, mais il y a tout de même, c'est passionnant, cette période. Et je veux vraiment dire que je me fais du souci, surtout pour les autres. Je veux dire, moi, je disais tout à l'heure, je suis un privilégié parce que je peux travailler, parce qu'on habite dans un bel endroit, qu'on dispose d'une terrasse, mais on ne sort pas de chez nous. Et puis, je pense aux personnes qui sont confinées, on l'est tous, mais enfin, qui sont confinées dans des appartements de 25 mètres carrés, à 3, à 4, à 5 parfois. Et je me dis que ça doit être très, très, très dur à vivre et à traverser. Et que je leur tire mon chapeau, vraiment. Et j'ai une pensée, évidemment, pour les femmes victimes de violences conjugales et qui se retrouvent cloîtrées avec un connard en face d'elles. Et j'ai peur que, voilà, qu'il y ait des drames qui se déroulent en ce moment. On ne peut rien y faire, sinon lancer un appel à la tendresse, à la douceur et à la réflexion sur ses propres actes. Il y a des choses qu'il faut arrêter de faire, notamment ça.
Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez, que vous ne vous étiez jamais posées ?
Oui, alors les grandes... Il y a une question que je me suis posée, je me dis, tiens, pourquoi c'est très peu apparu dans les débats en France au moment de l'organisation du premier tour des municipales ? On s'est dit, oui, est-ce qu'il va y avoir de la contagion ? Non, vous avez, les gens vont se tenir à un mètre de distance, il y aura du gel hydroalcoolique, etc. Bon, imaginons que les deux tours aient eu lieu. Est-ce que c'était vraiment malin de mettre en place de nouvelles équipes municipales au beau milieu d'une crise, et de mettre à des postes de responsabilité des gens qui n'avaient aucune expérience de ce métier pour ça. Il faudra qu'on y réfléchisse aussi rétrospectivement, parce que l'ancienne équipe qui était là depuis 5 ans, elle connaissait tous les numéros du chef des pompiers, du flic, du machin, de la préfecture. Les autres devaient apprendre un métier. Et c'est pas au milieu d'une crise comme celle-là qu'on doit apprendre son métier, bon sang.
D'autant plus qu'ils auraient dû se croiser pour les passations de pouvoir.
Et se refiler le coronavirus.
Et serrer la main.
Oui. Non, voilà. Alors, à quoi on pense pendant des périodes comme celle-là? Mais on pense qu'on a de la chance de vivre avec des gens qu'on aime. On pense forcément à une période post-apocalyptique où la moitié de la population a disparu et où on se retrouve dans un monde désert, dans des villes. On se croirait dans des films.
Oui, enfin, il ne faut pas exagérer. Dieu merci, pour l'instant, ça n'est pas une hécatombe non plus.
Ah non, 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 non. Non, mais enfin, les gens, vous savez, quand les autres sont enfermés chez eux ou plus là du tout, à première vue, on ne voit pas la différence. On sait que dans les maisons, il y a de la vie, heureusement. Non, non, mais attendez, je vois, vous me demandez à quoi ça me fait penser, je vous livre, mon sentiment. Hein. Ce n'est pas du tout que je souhaite ça.
Est-ce que votre femme en profite pour vous obliger à jouer au Scrabble ?
Alors, vous n'allez pas me croire, mais au moment où vous m'appelez, j'achevais une partie, que j'ai gagnée d'ailleurs. Je suis très étonné, parce que d'habitude, je me fais piler. Et oui, elle en profite évidemment, mais de bonne grâce, je lui accorde des parties supplémentaires en dehors du week-end. Parce que, vous l'avez remarqué aussi, la notion de week-end nous a un peu quittés.
Oui, on ne sait plus quel jour on est.
Et moi, je ne consulte plus mon agenda non plus, ce que je faisais 10 fois par jour auparavant. Il y a des choses qui changent.
Eh bien, merci Philippe Gueluc. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère.
Mais nous allons inaugurer cette exposition dès que possible, je vous le promets. Et vous allez voir que je ne vous racontais pas des bobards. Ça va être une vraie exposition. Mais d'ici là, prenez soin de vous aussi. Embrassez tous vos auditeurs de ma part, du bout du coude.
Ils vous écoutent.
Bon courage à tous.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
J'appelle maintenant la comédienne Sylvie Testu, qu'on a vue dans La Captive, dans Je rentre à la maison, ou à la télévision dans Qu'en sort la recluse. Allô Sylvie Testu.
Bonjour.
Alors comment se porte la recluse ?
Oh bah les recluses. Elle se porte comme quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'exercice physique, si ce n'est, je pense que je vais devenir la championne du ménage. Je déplace les objets pour avoir l'impression qu'il y a un peu de vie dans cet endroit mort, mais bon.
Mais vous pouvez danser, il y a des cours de danse virtuelle.
C'est ce que je fais tous les jours à 18h. Moi, je prends des cours de danse classique d'habitude, ou de barre au sol plutôt, et la prof a une super initiative. Au moyen d'une application, on est une quinzaine de danseuses et on se salue comme ça, on se voit chacune chez elle et on danse. Et elle nous regarde, elle nous corrige et elle continue de nous engueuler en plus.
Elle vous voit même mieux peut-être en fait sur l'écran.
Ça dépend un petit peu enfin des caméras qu'ont chacune. Moi, elle me voit parce que j'ai mis ça sur une tablette, mais bon, quand c'est sur un téléphone portable, c'est plus compliqué. De temps en temps, elle gueule, elle dit « Je te vois pas, je vois pas tes pieds, tu triches !»
Vous êtes confinée à Paris avec toute votre famille ?
Alors, je suis confinée seule parce que moi, je suis tombée malade il y a 10 jours. Donc, ma famille s'est enfuie.
C'était bien le Covid ?
Alors, c'était bien le Covid, a priori, oui. Ouais. Alors, je n'ai pas été dépistée parce qu'il n'y a plus de... il y avait plus assez de tests déjà. Mais le médecin traitant qui est venu me voir m'a donc dit « Il me semble que c'est bien ça, donc si tu peux t'éloigner de ta famille. » Alors, je suis restée 3 jours confinée seule. J'ai un petit bureau qui est minuscule. Avec toute la famille qui hurlait de partout, ça me rendait un petit peu nerveuse. Quand ils sont partis, je dois dire que j'avais le droit de tousser dans mon salon. Je me suis sentie libre subitement. Ça me paraît très très grand, ta part d'un coup.
Ah oui, sans doute, oui. Et vos enfants font-ils quand même leurs devoirs ?
Alors, il faut leur devoir, oui. Et puis, j'ai même mon fils qui m'a téléphoné ce matin. Et je n'avais pas compris qu'il était en devoir sur table par Internet. Et il m'a demandé, maman, comment on dit déjà la glorification du dictateur ? Et moi, je réponds en plus par texto. Je dis, est-ce que tu parles du culte de la personnalité ? Merci. Maman, c'était quand, Lénine ? D'un coup, je me suis dit, c'est bizarre ça. Comment je demande question ?
Ah oui, en fait, il trichait pendant son examen.
Je l'ai aidé, donc on a pompé. Il a pompé sur moi. J'ai dit, notez que c'est bien que je ne sois pas à côté, parce que j'aurais pas pu résister à regarder. Mais non, tu te trompes, c'est pas ça.
Vous faites vos courses ?
Ouais, je fais pas vraiment rapidement, quoi. C'est vrai que je me dis pas, je fais pas partie des gens qui disent tiens, je vais me faire vraiment bien manger maintenant, alors que je le fais très peu d'habitude. Donc voilà. Donc j'achète des yaourts, voilà, des conneries. Je vais dans un tout petit magasin bio à côté où il y a pas la queue. Globalement, je suis seule, je dois dire. Donc je salue les deux caissiers qui sont derrière leur vitre en plexiglas. Bon, c'est vrai que ça nous met dans un état un peu curieux. Et sinon, je me fais livrer quand il manque du papier, parce que j'écris du coup, hein, j'en profite.
Eh bien oui, vous avez écrit plusieurs livres racontant la vie d'actrice.
Oui, bah alors là maintenant, je raconte la vie de mère. Alors je suis subitement toute seule, mais bon. Et ça faisait un moment que je n'avais pas eu le temps d'écrire et je l'ai là. Quelle merveille.
Et vous avez du papier ?
Non, je me fais livrer, ouais, je me fais livrer. Là, j'avais plus de papier pour imprimer. Et je me suis fait livrer et j'ai hurlé de rire parce que le type, je lui dis, bah, si vous voulez, vous me laissez ça en bas, je descendrai le chercher. Il me dit, non, madame, je dois monter. Il monte et il me jette le carton. Je me suis dit, ça me fait des réactions chez tout le monde. C'est quand même assez curieux. Il m'a jeté le carton, il m'a dit, attention, c'est lourd, et puis c'est enfui. J'ai dit, oh, bah, merde.
Comment vous vous distrayez ?
Bon, j'écoute de la musique, j'écoute la radio, je bouquine, je regarde des films, voilà, sur les plateformes.
Vous regardez le journal télévisé qui dure 2 fois plus longtemps depuis que le monde tourne au ralenti ?
Ouais, enfin, je regarde 1 fois tous les 2 jours, parce que tous les jours ça me fait trop, moi. Il y a un moment, ça va, quoi. J'ai compris qu'on n'était pas bien. Non, c'est vrai que j'ai écouté en fait les 2 allocutions du président. Bon, je me dis, ah, est-ce que... Bon, je ne sais pas. La première fois, je me suis dit, bon, c'est bien. La deuxième, j'ai eu plus de doutes, mais bon, c'est comme ça.
Vous apprenez vos rôles ? Vous avez des films en préparation qui ont été interrompus, reportés ?
Oui, je vais faire un premier film qui a été reporté, mais alors là, j'ai aucune nouvelle, à mon avis, avant le mois d'août ou le mois de juillet. Ça m'étonne qu'on reprenne tout de suite au mois de mai, quoi. Ça me paraît très curieux, parce que j'ai même pas essayé les costumes. On devait tourner mi-avril, donc là, bon, déjà, c'est pas bon. Donc j'imagine que ça va être bien reculé, quoi. J'en sais rien du tout là-dessus, on n'a pas de visibilité, je crois pas.
Puisqu'on parle de costumes, vous vous habillez quand même, vous vous faites belle, en dépit du fait que vous êtes toute seule ?
Ah ouais, je mets même du parfum, je peux dire la vérité. Quand je prends ma douche, je me parfume. La dernière fois, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça ? Mais en fait, pour moi, c'est un réflexe, je sais pas. Oui, et puis en plus, moi, je discute vachement par les réseaux.
On sent pas le parfum, hein, par le feu.
Oui, mais moi, je le sais. Mais comme quand on tourne... on voit pas, enfin il y a plein de trucs qu'on voit pas, mais quand j'ai fini de déjeuner, il faut que je me brosse les dents, alors que normalement je me brosse les dents 2 fois par jour, moi. Et ben je le fais quand même à la cantine, même si j'ai pas besoin d'embrasser quelqu'un, rien, je le sais, moi, que ça, tout est bien, il faut que je le sache. Non mais c'est comme ça, je sais pas pourquoi. Peut-être on verra, si ça dure encore longtemps, on verra, peut-être qu'un jour je vais appeler en FaceTime avec les cheveux dégueulasses, hein, c'est bien aussi.
Si je comprends bien, quand vous tournez un film d'époque, vous mettez de la lingerie d'époque en dessous de vos costumes d'époque.
Oh non, je vais pas jusque là. Non, puis en plus, c'est souvent des matériaux, à part si c'était en soie, mais on n'a plus le budget. C'est des matériaux qui grattent, alors non. Hein. Là-dessus, je triche. Non, je mets tout le confort en dessous. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que je m'habille, ouais. Je m'habille, je sais pas. Et puis même, je suis contente. Vous savez, il y a une application, je sais pas si on peut le dire, mais c'est des maisons, en fait. Et on s'invite les uns les autres. Moi, je prends l'apéro avec mes potes.
Ah oui, c'est bien.
On peut être jusqu'à 10. Donc, c'est vachement drôle. On se fait des 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à ce que ça claque. Bon, voilà, le réseau ne tient plus très bien. Mais bon.
Ah oui, il y a des problèmes en ce moment. Hein. Il y a beaucoup trop de monde sur les réseaux.
Ouais, il paraît. Et puis même, alors, je fais un truc pas mal. Moi, qui ne joue pas de musique, le piano est à l'abandon. Alors, j'essaye à l'oreille de retrouver des musiques. Et ensuite, j'appelle mes enfants. Je dis, regarde, regarde. Et ils se moquent de moi. Ils sont hilars.
Est-ce que vous applaudissez le personnel soignant tous les soirs à 20h?
Yes, tous les soirs à 20h. Je le fais. Et puis en plus, ça me permet de voir qu'on est très peu nombreux dans ma rue. Je pense qu'ils ont tous des résidences secondaires. Tout le monde s'est barré. On doit être une dizaine. Et c'est vrai qu'on dit, ils me disent « Bonne soirée, madame ». Alors je dis « Bonne soirée ». Eux, ils sont tous deux. Et moi, je suis toute seule.
Écoutez, j'espère que vous ne resterez pas trop longtemps toute seule. Merci Sylvie Testu de nous avoir donné des nouvelles de votre confinement. À bientôt.
Merci, au revoir.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Philippe Genada, c'est l'auteur du Chameau sauvage, de La grande bouche molle, de La serpe. On va tout de suite l'appeler. Allô Philippe Genada ?
Frédéric Taddeï.
Alors, il faut savoir qu'à l'âge de 25 ans, vous étiez imposé de rester confiné pendant toute une année dans votre appartement, sans télévision, sans téléphone, sans radio. Vous ne descendiez que 5 minutes par jour pour faire vos courses en bas de chez vous, sans parler à personne. Alors, qu'est-ce que vous savez que nous, qui sommes des débutants dans ce domaine, ne savons pas encore ?
Alors oui, moi, je suis loin d'être un débutant. Je suis même un surentraîné depuis 30 ans, même en dehors de cette expérience assez extrême d'enfermement. Je suis resté après ça, ça m'a marqué, ça m'a tatoué, et je suis resté plutôt confiné de nature depuis 30 ans en fait. Mais alors ce que je sais que vous ne savez pas encore, mystère et boule de gomme, pas grand chose en fait. Ce que je sais, c'est que ça permet de faire des choses, mais puisque moi en fait c'est pendant cette période d'enfermement volontaire, d'isolement, que par le plus grand des hasards j'ai commencé à écrire, juste parce que je m'ennuyais et que j'avais besoin de sortir des choses de l'intérieur de ma tête, et que j'avais du papier et un stylo, je me suis mis à écrire. Donc pour moi, ça a été assez utile, j'espère très utile, puisqu'ensuite j'ai continué. Mais sinon, parce que moi je suis tellement solitaire, je me sens tellement bien un peu à l'écart dans une grotte, que du coup, c'est mon mode de vie habituel, quoi. Donc, moi, ça ne change pas grand-chose, et j'ai l'impression que c'est presque naturel de vivre enfermé entre quatre murs.
Oui, mais enfin là, vous pouvez carrément pas descendre dans le bar d'en face ou d'en bas parce qu'il est fermé.
Alors ça, c'est ça qui est amusant, c'est que je me disais, quand on a appris le confinement, je me suis dit, bon, parce que normalement, sans exagérer, moi je passe 23 heures sur 24 chez moi, dans mon appartement, et une heure par jour au bistrot d'en bas. Le bistrot Lafayette. Et je me suis dit, bon, bah, une heure, c'est rien, ça me fera une heure en moins, c'est pas grand-chose. Sauf que, par exemple, j'ai eu après l'image dans la tête d'une chaise avec ses quatre pieds. On se dit, un pied, c'est rien. Un pauvre pied, un morceau de ferraille, là, ou de bois, c'est rien. Mais si on enlève un pied, elle a bonne mine, la chaise, et celui qui est assis dessus. Donc, en fait, cette petite heure de rien du tout, au comptoir du bistrot d'en bas, où j'avais une sorte de vision, de contact avec le monde et avec la société, alors je vais évidemment pas me plaindre et pleurnicher, mais du coup, ça me manque. Et je me demande si je suis pas presque autant déboussolé, déstabilisé que des gens qui travaillaient dans des bureaux ou qui sortaient toute la journée, juste pour une malheureuse petite heure.
Mais à l'époque où vous étiez confiné volontairement pendant toute une année, vous n'étiez pas ressorti tout de suite. C'est difficile de ressortir hein, ensuite.
Oui, alors c'est ça qui est, j'allais dire, marrant, c'est ça qui est particulier, c'est que, évidemment, pendant un an, ça a été très dur. Hein, j'ai failli abandonner 500 fois, deux fois par jour presque. Évidemment, pendant un an, je ne pensais qu'à une chose. Je me suis enfermé de manière assez bébête et scolaire du 1er janvier au 31 décembre. Donc pendant un an, je n'ai pensé qu'au 1er janvier 1990, qui serait le jour de ma libération. J'étais presque comme un prisonnier qui fait des petits bâtonnets sur son mur pour voir passer les jours. Et ça s'accélérait de plus en plus. En août, septembre, octobre, je me disais, ça y est, la ligne d'arrivée est proche, je vais enfin pouvoir sortir. Sauf que je n'avais pas pris en compte qu'on prend des habitudes quand on se, on est perméable à la solitude, presque. Et j'avais l'impression, vers la fin décembre, je commençais à me dire avec un peu moins d'enthousiasme, c'est bientôt fini, j'avais l'impression d'être couvert de mousse ou de champignons ou je sais pas quoi. J'avais l'impression d'être presque comme un vieil objet qu'on a abandonné dans une forêt. Et en fait, le 1er janvier, je me suis levé en me disant « Regarde, ça y est, je sors !» Et puis, j'ai senti, j'avais une réticence, une vraie réticence profonde. Je me suis dit « Bon, j'ai fait 365 jours, on n'est pas un jour près, je sortirai demain. » Et en fait, j'ai repoussé, et je suis sorti le 17 janvier. C'est-à-dire que pendant 17 jours, j'ai eu peur. C'était vraiment à la fois une sorte de peur et puis de constat d'incapacité. Enfin, il me semblait que je n'arriverais plus à parler à des gens, parce que le principal pendant cette année, c'est que je ne parlais pas, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les gens confinés. Je m'étais fixé, une des contraintes que je m'étais fixé, c'était de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas produire de son articulé. Et donc j'avais l'impression que je ne saurais plus, que les gens me feraient peur. Je me suis dit, je m'imaginais rentrer dans un bistrot avec plein de gens qui allaient me dire « Oh, t'en voilà !» Et j'étais vraiment comme tétanisé par l'habitude, quoi. Et donc j'ai mis 17 jours avant de trouver le courage de me relancer dans le monde.
Et ben voilà, on était prévenus. Mais évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi un type de 25 ans, a priori en bonne forme physique, comme vous deviez l'être, ouais. Philippe Génada, s'impose une épreuve pareille. Aujourd'hui, on est tous obligés, on est même 3 milliards à subir des mesures de confinement plus ou moins drastiques. Mais à l'époque, pourquoi vous avoir infligé ça ?
Alors, c'est une longue histoire, on ne va pas avoir le temps, et puis c'est un peu intime. Mais pour dire les choses assez clairement, donc j'avais 24 ans en 88. Et je traversais une crise. Je me suis intéressé à ça. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, depuis maintenant 40 ans, s'était ajouté à la crise de l'adolescence. Il y a une deuxième crise du fait du changement de mode de vie. C'est-à-dire que après sa crise d'adolescence, on ne devient pas adulte. On a 17-18 ans, on n'est pas adulte. On devient adulte et dans la vie, on rentre vraiment dans la vie publique et sociale vers 23, 24, 22, ça dépend des gens. Et je me suis rendu compte souvent, des gens que je connais ont eu ce même genre de crise. Donc je pense que c'est un rapport avec ça. En 88, je pétais les plombs complètement. Mais vraiment, je déraillais, c'est-à-dire que ça a commencé. Je me suis imposé, c'est marrant, avec le recul, je ne me disais pas ça sur le coup, mais comme des rites de passage à l'âge adulte. C'est-à-dire que je m'imposais, au début, vraiment pour m'amuser, des épreuves de privation. C'est-à-dire que j'ai commencé par ne pas manger pendant une semaine. Ensuite, j'ai fait ne pas dormir pendant une semaine. J'ai fait 7 nuits de suite blanches. Ne pas me lever, rester assis ou allongé. Je marchais... Je rampais dans mon appartement, c'était parfaitement ridicule, mais personne n'était là pour me voir, pendant une semaine. Sauf que ce qui était au début un jeu et des sortes d'expériences a commencé à devenir de plus en plus poussé, extrême, et ça s'est mis à frôler vraiment l'automutilation. Par exemple, je fumais à l'époque, je m'étais brûlé, ça fait peur, hein, mais je m'étais brûlé le bout des 10 doigts avec ma cigarette, vraiment brûlé, pour ne plus pouvoir me servir de mes mains, pour voir ce que ça faisait de ne pas se servir de ses mains. Et quand je suis arrivé à des choses encore plus extrêmes, dont je ne vais pas parler maintenant, je me suis dit, soit je me fais interner en psychiatrie, soit je vais finir par mourir, me détruire, soit je me fais interner en psychiatrie, soit il faut que je trouve quelque chose, n'importe quoi, qui me fasse comme un électrochoc, ou enfin avec la psychiatrie ça va bien d'ailleurs, quelque chose qui me sorte de ça et qui me fasse comme une remise à zéro de mon cerveau, de ma vie.
Mais c'était la guerre de 14 ou ça, quoi ?
Ouais. Et à cette époque-là, vers peut-être octobre ou novembre 88, je ne sais plus exactement, à l'automne 88, il y a une femme, je vois à la télé, j'avais une télé parce que dans mon année, j'avais supprimé télé, téléphone, etc. Une femme, une jeune femme, Véronique Le Guen, on voit au journal de 20h, elle sort d'une grotte. Elle a passé 3 mois au fond d'une grotte, à 80 mètres de profondeur, sans aucun contact avec l'extérieur et dans l'obscurité, pour faire des expériences, des analyses sur les rythmes du corps. Et je la vois sortir de sa grotte, elle a l'air complètement éberluée, évidemment, et je me dis, voilà, ce qu'il me faut, il faut que je m'enferme. Ça a l'air de produire quelque chose de... Et donc, voilà, comme j'avais pas de grotte, évidemment, qu'il n'y a pas beaucoup de grottes à Paris, je me suis dit, je fais ça dans mon appartement. Et comme ça me semblait plus facile en appartement, même si c'est pas évident, qu'au fond d'une grotte obscure et humide, je me suis dit, au lieu de 3 mois, je vais faire 1 an. Et voilà comment l'idée m'est venue. Et donc, le temps de préparer, de prévenir tout le monde, mes parents, mes amis... de me débarrasser de tous les objets de contact chez moi, eh ben, le 1er janvier, je me suis enfermé.
Eh bien, une idée qui a fait son chemin, qui a même fait école. Merci, Philippe Génada.
J'espère que ça ne durera pas 1 an, quand même.
À cette expérience inédite. Enfermez-vous bien et à bientôt, ouais. J'espère.
À bientôt, Frédéric.
Et maintenant, musique. En 1983, quand Idée Noire est devenue un tube, on se demandait pourquoi Bernard Lavilliers répétait « Je veux m'enfuir » et quel huis clos étrange il partageait avec Nicoletta. Mais si l'on écoute à présent la version qu'il a enregistrée depuis avec Catherine Ringer, tout s'éclaire et l'on comprend pourquoi l'album s'intitulait « État d'urgence ».
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Il se lève, c'est l'heure, écrase son mégot. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint la cuisine, mais la sécurité.
Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Mais où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu quand tu es dans mes bras?
Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais cœur. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgente et désirable. Une blonde décapitée dans sa décapotable.
Cauchemar, highway, bad trip, fumée noire. Une vente vorace, tu es au fond d'un couloir.
N'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir
quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir, je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir, je veux pleurer, je veux rire.
Interprété par Catherine Ringer et Bernard Lavilliers, une chanson prémonitoire.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
C'est maintenant au tour de Jean-Louis Etienne, médecin explorateur. La solitude, lui, il connaît. En 1986, il a marché seul pendant 63 jours jusqu'au pôle Nord en tirant son traîneau. C'est l'auteur de « Oser l'autonomie ». En mai dernier, il nous avait emmené dans cette émission, dans « Balade avec ». Il nous avait emmené au rayon bricolage du BHV où il se confectionnait une trousse à Haïti pour voir venir, disait-il. Allô, Jean-Louis Etienne ?
Oui, bonjour.
Comment vous portez-vous?
Écoutez, j'ai la chance de me trouver dans le Tarn, dans un coin perdu, qui est ma maison, dans un bois. Donc je suis en confinement qui est plutôt pas désagréable, on va dire. Quoi.
Vous êtes dans votre fameuse maison que vous avez construite vous-même, qui est au milieu des bois, hein, sur pilotis.
Oui, c'est ça. Je suis là, dans cette maison-là, dans mon bureau, qui est construit sur pilotis dans les bois. Et là, le principe, c'était voir sans être vu. Là, j'ai une belle vue magnifique. Et surtout, j'habite à Paris le plus souvent et j'ai eu une espèce d'instinct de survie avec la famille en se disant il faut se barrer. C'était lundi dernier et on est parti par chance avant le couvre-feu. Ça fait qu'on a pu s'installer ici. Quoi. Donc, parmi les gens confinés, nous ne sommes pas les plus malheureux.
Et vous n'êtes pas tout seul, donc?
Non, je suis avec mes enfants, avec mes deux garçons et ma femme qui est là. Nous sommes quatre et nous avons déserté Paris brutalement la semaine dernière, lundi dernier.
Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment vivez-vous ce confinement ?
Mais si vous voulez, c'est, moi je ne vais pas me plaindre, m'étaler, parce que j'ai l'habitude de vivre, pas dans des confinements, mais de faire des expéditions où on vit dans des milieux d'isolation, des fois, qui sont difficiles à tenir. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une fébrilité très intense qui nous aveugle un peu sur le présent. C'est-à-dire que, oui, on vit un présent qui est intense, auquel on n'était pas du tout habitué. Et ce présent comme ça, qui nous perturbe, a tendance un peu à nous aveugler. Et on part un peu dans tous les sens. Donc, c'est en même temps, si vous voulez, le confinement est un test, je dirais, un test qui s'impose à nous. Et ce sont des occasions rares, je dirais presque entre guillemets des opportunités de refaire un peu silence avec soi-même, d'essayer de mettre le meilleur de soi-même dans la communauté familiale pour en faire profiter les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut prendre les choses à l'envers.
Et puis c'est une bonne occasion de tout faire soi-même avec ses 10 doigts, ce que vous aimez particulièrement, non ?
Oui, moi je suis très autonome, mais ça me donne le temps, si vous voulez, de bricoler. Mais ce qu'il y a, c'est que les magasins de bricolage sont fermés, on ne peut pas aller acheter des matériaux, du bois, etc. Donc je fais avec mes 10 doigts, effectivement, pas grand-chose, mais j'écris à une chose qui est... quand on est dans la nature, comme je suis à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est de repasser tous les jours au même endroit et se rendre compte que le printemps est là. Je pense que ceux qui ont des balcons avec des fleurs peuvent aussi peut-être regarder cette préciosité qu'est la nature, des choses qui nous échappent complètement, qu'il y ait virus ou pas virus, la nature est là et grandit de jour en jour. Et en fait, rien n'est invisible pour qui sait regarder. C'est l'apprentissage du regard sur des petites choses qui va nous aider.
Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment ?
Écoutez, rien.
Je m'en doutais.
Non, soyons honnêtes, rien ne manque. Vous savez, ce qui est précieux, c'est le temps. Et c'est une opportunité. Il faut savoir exploiter le temps qui est mis à notre disposition. C'est un exercice. C'est comme une retraite qui nous est imposée. Et j'imagine, je pense, je reçois des messages d'amis qui sont à 4 dans un 60 mètres carrés avec 2 enfants, dont un adolescent. Et je conçois que la vie n'est pas facile. Et c'est là que, en fait, comme dans une retraite qui vous est imposée, je dirais, chacun doit essayer d'aller chercher le meilleur de lui-même. C'est un exercice auquel on n'est pas habitué, parce qu'on vit d'une manière générale dans une routine. Et c'est une rupture totale de cette routine. Et je dis encore une fois, je suis pour le positivisme de l'inconnu, vous voyez. Il y a quelque chose d'inconnu qui nous arrive dessus. Peut-être essayons d'en tirer quelque chose, un grandissement des relations familiales dans cet exercice, parce que c'est rare, ça n'existe jamais, si vous voulez, que tout d'un coup on soit enfermé en famille dans un appartement où on n'a pas le droit de sortir. Ça peut être dramatique, mais aussi ça peut être l'occasion, effectivement, de renouer les uns avec les autres en allant chercher ce qu'on sait le mieux faire pour son proche.
Vous allez faire les courses tout de même ou vous avez un potager et vous jardinez tout vous-même ?
Non, je vais faire les courses. Je vais faire les courses et je me suis fait contrôler donc par la gendarmerie. Et j'ai fait mon autorisation. Et j'étais faire les courses avec mon épouse et puis on s'est fait contrôler. Et donc là, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit d'y aller à deux, même si on est la même famille. Et oui, donc j'écoute pas tous les jours les nouvelles, mais donc je ne recommencerai pas, c'est ce que j'ai promis aux gendarmes.
Ouais. Mais vous avez l'habitude des expéditions solitaires. Je rappelais que vous aviez marché 63 jours pour atteindre le pôle Nord, il y a maintenant, combien c'était il y a
86, il y a 30 ans. Oui, mais ça c'était des épreuves que je m'étais inventées, dans lesquelles j'avais mis beaucoup d'ambition. Donc je m'étais préparé à ça, mais quand même. Quand vous arrivez sur la banquise, si vous voulez, c'est une rupture, mais d'une violence, exactement comme celle d'un confinement. Je suis confiné sous ma tente où il fait moins 40 et je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, quoi. Vous voyez, il y a une relation avec soi, on a une idée de soi, une volonté, une ambition, et tout d'un coup, la réalité vous tombe dessus. Et donc, en fait, j'ai réussi à traverser toutes les tentations de l'abandon, je voulais abandonner. Dans un confinement qui nous est imposé aujourd'hui, on ne peut pas abandonner, on est obligé de rester. Mais encore une fois, la relation avec soi-même, c'est quelque chose... Si vous voulez, je dis souvent, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Vous voyez ce que je veux dire ? On est confronté à quelque chose qui nous est imposé d'une manière brutale et on a des capacités que l'on ignore de soi. C'est ça qu'il faut aller chercher pendant cette période-là.
Vous avez un bon conseil à donner pour savoir où les chercher, justement ?
Écoutez, des fois, c'est une lecture. Des fois, c'est un vieux projet qu'on a eu un jour. On s'est dit, mais un jour, peut-être, je ferai ça. Vous voyez, j'écrirai quelque chose, je ferai. Ben, c'est l'occasion de s'y mettre. Et dans ces cas-là, je dis le découragement, parce que quand on est souvent découragé quand on a tout d'un coup quelque chose qui nous dépasse. Mais le découragement, c'est un test. C'est un test permanent à passer, sinon rien n'existe, vous voyez. Et pour rassurer les gens en même temps, quand je leur dis qu'il faudrait écrire, moi j'étais nul en français, si vous voulez, j'avais des notes proches du niveau de la mer, je suis dyslexique, je lis très peu, j'ai des difficultés, mais j'ai découvert l'écriture. Écoutez, essayez. Pour moi, quand j'ai entendu ce confinement, j'ai dit, là, ce sont des sujets de roman qui arrivent, quoi. Ce qui va se passer dans une famille, vous voyez, je ne sais pas. Et en fait, écrire quelque chose qui sort de ses tripes, c'est se construire soi-même. Et moi, je me suis beaucoup construit en écrivant. Mais je rame, hein. Il y a des jours où ça passe pas. J'ai envie de m'arrêter et puis de temps en temps, il y a une bonne phrase. Vous écoutez à la radio une lecture, une bonne phrase constructive. Vous dites, ah putain, j'aurais aimé dire un truc comme ça. Donc, vous l'écrivez. Voilà. Donc, et je suis arrivé aujourd'hui à me faire plaisir, même si souvent, c'est une difficulté pour moi, mais il y a du plaisir. Voilà un exemple de choses que l'on peut faire, quoi.
Merci Jean-Louis Etienne, portez-vous bien et à bientôt j'espère.
À bientôt, vous aussi, merci, au revoir.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
J'appelle à présent Mazarine Pinjot, elle est professeure de philosophie, c'est l'auteur de Bouche cousue, de Bon petit soldat et de Se taire chez Julliard. Allô Mazarine Pinjot ?
Oui.
Comment vous portez-vous ?
Eh bien, ça va à peu près.
Vous êtes confinée à Paris avec vos trois enfants, votre mari ?
Oui, je suis avec mes enfants, mon mari et ma mère, mais on a réussi à aller chez nous dans le sud.
Et alors, comment ça se passe ?
Avant le confinement. Ça se passe bien, on a de la chance, parce qu'on peut respirer un petit peu. En même temps, on est en mode kibbutz, quoi, j'ai envie de dire. On est un peu les uns sur les autres, mais c'est ça, du bon, comme ça peut parfois avoir un peu. Enfin voilà, ça manque d'intimité, mais c'est le lot de chacun. Enfin, il y en a qui sont très seuls. Nous, on est nombreux et c'est mieux quand même.
Vous faites vos courses à tour de rôle ?
Ouais, on n'en fait pas trop. Enfin, on essaie de faire au minimum. Enfin, de manger ce qu'il y a, quoi. Enfin voilà. Et puis, oui, c'est ça, ben on fait ce qu'on doit faire, quoi.
Vous avez fait des découvertes intéressantes ?
Bah, c'est-à-dire que ce qui change vraiment beaucoup, je trouve, enfin, en tout cas pour moi, qui travaille quand même assez souvent à la maison, enfin, donc de ce point de vue-là, ça ne change pas grand-chose. J'ai l'habitude de faire mes recherches chez moi, d'écrire chez moi, préparer mes cours chez moi. Là, ce qui change, c'est d'avoir les enfants tout le temps, de devoir leur faire la classe, de se battre pour avoir accès à un ordinateur, de préparer 3 repas par jour pour 6 personnes. Alors que quand je suis seule, ben, je mange un truc sur le pouce. Donc ça change complètement le rapport au temps, le rapport au travail. Et voilà, il y a des choses assez chouettes. C'est justement de pouvoir les voir travailler, d'accompagner quelque chose qu'on n'accompagne pas normalement. Mais ensuite, il y a évidemment une forme de perte d'intimité. Et pour ce qui concerne le travail, bah, c'est plus difficile. Enfin, je ne peux pas écrire une ligne, par exemple. Je peux arriver à lire un petit peu, à bosser un petit peu sur des papiers que je dois écrire et tout. Mais sinon, je ne peux pas écrire une ligne. Pour ce qui est d'écrire un livre ou quelque chose comme ça, c'est impossible.
En fait, on retrouve le rythme et sans doute l'ambiance que connaissaient nos aïeux quand on vivait à la campagne, toute la famille au même endroit. Ça. On allait travailler dans le jardin, enfin le jardin, on appelait ça pas ça le jardin à l'époque. Mais...
Non, mais c'est exactement ça, on retrouve vraiment, on vit au rythme de la lumière, au rythme des repas, mais c'est exactement ça, avec... comme ça, quelque chose du temps qui passe, mais qui passe finalement quand même assez vite, je trouve, bizarrement, alors que j'aurais pu penser qu'il passerait moins, enfin plus lentement, mais bon, comme les enfants en plus sont chacun dans des classes différentes, donc ça multiplie. Bon, après, les grands sont à peu près autonomes, mais il faut quand même vérifier et tout. Mais c'est exactement ça, quoi. Il y a vraiment un temps qui est très indexé sur les activités, mais des activités finalement assez saines, enfin, qui sont assez en lien avec le rythme du ciel.
Et est-ce que vous savez encore les jours, le jour qu'on est, vous n'avez pas perdu comme beaucoup, hein, beaucoup de gens ont perdu le sens.
Non, ça pas du tout. Alors mon mari, lui, il bosse en télétravail, donc lui, il a des rendez-vous, des conf-calls tout le temps, machin et tout, donc il doit s'isoler, ce qui n'est pas facile. Ça, c'est quand même assez compliqué. Mais donc lui, il connaît à peu près les jours, mais moi, pas du tout, quoi. Cela dit, j'ai même dans l'année, en général, je suis toujours un petit peu paumée, mais là, j'ai complètement lâché prise, quoi. Donc quand j'ai quelques rendez-vous téléphoniques, c'est... il faut que j'arrive à me le rappeler, quoi.
Pendant la peste noire aussi, on se confinait à la campagne, hein, le Décameron de Boccace, et c'est l'histoire de cette jeune femme et de trois garçons qui fuient la peste à la campagne. Vous avez profité pour le relire, ce genre de livre ?
Non, pas du tout.
Ben, lisez Boccace.
Mais ouais, non, mais absolument, il faudrait. Mais là, pour l'instant, j'essaye de lire des trucs pour mon boulot. J'essaie de travailler un peu quand même, d'arracher les minutes que je peux avoir pour moi pour bosser. Donc je lis utile, mais c'est vrai que je m'étais dit, tiens, je vais en profiter pour lire des bouquins, de la littérature, des trucs que j'ai jamais lus. Mais en fait, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Après, je pense que si c'est amené à durer, chacun va un peu prendre ses marques, va inscrire un rythme un peu différent, une sorte de discipline. Là, pour l'instant, on tâtonne un peu, quoi. C'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à s'organiser, quoi. Enfin, en tout cas, pour le boulot.
À la fac, vous donnez des cours virtuels ?
Non, parce que notre département de philosophie d'abord est en grève depuis un certain moment maintenant, donc on la continue. Maintenant, je suis en lien avec des étudiants qui me posent des questions, qui font des mémoires avec moi. Enfin, voilà, bien sûr, je maintiens le lien, mais en revanche, il n'y a pas de cours à proprement parler. Après, je me dis que si ça se termine relativement tôt, on pourra peut-être faire quelques séances, quelques journées d'études. Enfin, je sais pas comment on va s'organiser. D'abord, je sais pas ce qui va se passer. Donc, bon.
Il y a des philosophes qui avaient un peu travaillé sur le confinement, avant le confinement.
Alors,
c'est assez inédit, hein, dans l'histoire.
Exactement. Après, on peut trouver des moments de confinement chez certains philosophes. Je pense à Descartes qui s'enferme dans son poêle pour découvrir le cogito. À Pascal, à Sartre, ou l'enfer c'est les autres. Enfin, on peut toujours faire des liens avec certains thèmes que développent des philosophes, mais le confinement comme expérience à part entière, je sais pas, peut-être, hein, mais je sais pas.
Il vaut mieux se reporter à Boccace, ou à la limite à Pétrarque, à la vie solitaire,
ouais,
de Pétrarque.
Ouais. Mais en revanche, j'ai une voisine que j'aime beaucoup, à qui on parle à 5 mètres de distance pour, pour garder un lien. Et qui elle a vécu l'exode, la guerre, qui a dû se cacher pendant la guerre, et elle me disait, alors bon, je sais que c'est quelque chose qui revient, c'est comme pendant la guerre, etc., mais que quand même ça lui faisait penser à l'exode, au moment où ils étaient confinés, etc. Et il y a quelque chose quand même de cet ordre-là. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans la même dangerosité, dans la même inquiétude, etc., mais quand même, sur l'expérience du confinement, il y a quelque chose, quoi.
Oui, Catherine Clément nous disait la même chose la semaine dernière, d'ailleurs. Elle est retournée dans la maison où elle était pendant l'occupation. Bien, portez-vous bien, Mazarine Pinjot, vous et votre famille.
Merci beaucoup.
Et j'espère vous revoir bientôt.
Ça marche.
Au revoir.
Au revoir.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et maintenant, Bikini Machine qui chante une pharmacie dans laquelle tout va de travers, où il y a des théières et où tout le monde veut entrer. Encore une chanson attelée à n'en pas douter.
Europe 1, 11h30, Frédéric Taddeï.
La pharmacie anglaise, entrez par le côté. Mettez-vous bien à l'aise. Puis, vous remarquerez que tout va de travers, mais ce sera sans souci. Vous êtes à votre affaire dans l'anglaise pharmacie. Dans la pharmacie anglaise, il y a, pour patienter, des sofas, des théières et de grands calumets d'opiumane. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie. aux extraits de fair play, granules de fin whisky, pince sans rire en cachet, aspirine au brandy. Dans la pharmacie anglaise, tout le monde veut y rentrer. Élégante foutaise et excentricité. Pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise. Dans la pharmacie anglaise, ça devient déjanté. Last Gant's Craze d'un chapelier toqué. Jelly en émulsion, essence de pain d'épices, fighting spirit en flacon, élixir Redivis. Dans la pharmacie anglaise, je vais y retourner. J'aimerais qu'elle te plaise et tu pourras te soigner. Dans la pharmacie anglaise, la pharmacie anglaise. Pharmacie anglaise. La pharmacie anglaise.
C'était Bikini Machine, la pharmacie anglaise. On se retrouve dans un instant avec Marie-Claude Pietragala.
Europe 1, Frédéric Taddeï.
Allô Marie-Claude Pietragala.
Allô.
Comment une danseuse telle que vous vit-elle son confinement?
Oh, ben, je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est vrai que pour les danseurs, avoir... un espace réduit et continuer à s'entraîner, continuer à imaginer, continuer à rêver, continuer à trouver des gestuelles différentes. Bon, c'est vrai que l'espace qui est réduit nous permet de...
Ça va changer votre manière de danser, vous pensez?
Je ne sais pas si ça va changer, mais en fin de compte, je pense que ça va changer. Je pense que pour tout le monde, ça va changer notre vie. Hein. Il va y avoir un avant et un après. Quoi. Bon, j'ai cette chance quand même d'être privilégiée, d'être dans une maison, de pouvoir m'isoler dans une pièce pour pouvoir travailler physiquement. Après, c'est au jour le jour, c'est-à-dire de trouver la motivation. Alors à chaque fois, je me lance des défis, je me lance des thèmes différents. Évidemment, il y a l'entraînement, la barre au sol, la barre, les exercices d'assouplissement, d'étirement. Puis après, il y a toute la créativité aussi qu'il ne faut pas perdre. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile, quoi.
Vous êtes mariée avec un danseur, c'est Julien Derouault. Vous avez une fille qui est adolescente. Vous avez un chien. Comment vous partagez l'espace?
Eh ben, on se partage. On a chacun une pièce différente pour travailler. Déjà, voilà, il y en a un qui a mis son domicile dans le salon, l'autre dans une chambre, la troisième dans une autre pièce. Et puis on essaye chacun avec notre sensibilité. Puis voilà, chacun on essaye de continuer à travailler parce que c'est vrai que nous on a eu des tournées qui sont arrêtées brutalement.
Vous étiez en train de jouer La Femme qui danse. Hein, que vous présenterez à Paris en novembre. Et là, vous étiez en tournée.
C'est ça. Et on était en tournée avec ce spectacle. Et puis, en fait, ça s'est arrêté. J'avais un spectacle à Bruxelles, au Cirque Royal, qu'il a fallu annuler. Et puis là, il y a une quinzaine de dates qu'on a annulées et qu'on essaye de reporter. Donc, il y a tout le travail aussi de l'administration, de la compagnie, plus de l'école, parce que ça s'est arrêté aussi.
L'école de danse,
voilà.
Oui.
L'école de danse. Donc, c'est vrai qu'on essaye de scinder notre journée... entre des choses qui sont évidemment physiques, artistiques, et puis aussi tout le travail d'administration, d'essayer de tout reporter.
Mais c'est le monde entier en ce moment qui reporte les dates, aussi bien des Jeux Olympiques que des sorties de films, que des spectacles. Comment c'est possible de reporter autant de dates?
Ben justement, c'est ça. Je pense que c'est un peu une course. Je pense que tout le monde, c'est le casse-tête chinois pour tous les directeurs de théâtre, pour arriver à recaser dans leur programmation de cette saison, recaser le plus de spectacles dans la saison prochaine. Mais comme les saisons sont déjà plus ou moins arrêtées, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. Et en même temps, les spectateurs ont payé leur billet. C'est très difficile.
Si on ne reporte pas les dates, il faut les rembourser. Tout le monde reporte les dates.
Voilà, c'est ça que c'est. Et puis même par rapport aux spectateurs, on essaye justement d'honorer ce contrat moral avec eux aussi, parce que c'est important de pas couper le lien avec le public. Il y a toujours une déception quand on annule un spectacle. Alors que quand on le reporte, il y a aussi la possibilité de se projeter. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour nous qui sommes confinés, selon les métiers que l'on fait, c'est de pouvoir se projeter. Je pense que c'est ça l'enjeu. Comme on ne sait rien, comme on ne sait pas jusqu'à quand on va être confiné, c'est sûr que c'est évident de projeter un avenir, et en même temps, on a besoin de ça pour avancer, quoi.
Vous sortez quand même, vous allez faire vos courses, vous promenez vos chiens?
Alors les chiens, je les promène. Bon, j'ai la chance d'avoir le jardin, donc on a des rendez-vous tous les jours à plus ou moins à heure fixe où on va jouer avec eux. Et puis oui, on sort. Moi, j'essaye de sortir le moins possible quand même. J'essaye de respecter le plus possible. Je suis pas quelqu'un qui va sortir tous les jours pour faire ses courses.
Je rappelle que la plupart de vos spectacles, en tout cas les premiers, traitaient de l'enfermement.
C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on est confronté à cet enfermement qui est, même si moi je suis privilégiée parce que je suis dans ma maison avec un jardin, ce qui est pas la même chose pour les gens qui sont en appartement, mais c'est vrai que on se pose des questions. Et puis je pense que c'est quand on est confiné comme ça dans un espace, c'est savoir de pas répéter toujours tous les jours la même chose. Et essayer de se réinventer et de trouver des choses différentes. Bon, heureusement, il y a la lecture, il y a le fait d'écouter de la musique, il y a le fait de chercher aussi, d'alimenter son imaginaire en cherchant pour des créations futures. Enfin voilà, il faut essayer de continuer, quoi, à avancer.
Mais ce que je disais est quand même vrai, c'est que beaucoup de vos spectacles traitent de l'enfermement, et depuis presque toujours. Alors peut-être que ça date de l'époque où vous étiez petit rat à l'Opéra de Paris, où vous subissiez la dure école des jeunes danseuses, mais est-ce que ça vous a préparé à tout ça?
Ah, écoutez, je ne crois pas qu'on soit préparé à ce genre de choses là qui nous arrivent, parce que au début, on était quand même dans une sensation où on n'y croyait pas trop. On se demandait si on n'était pas rentré dans un mauvais film américain. Et là, on y est. Moi, quand je regarde à ma fenêtre et que je vois personne, en même temps, il y a un beau ciel bleu, il y a du soleil, mais c'est quand même assez...
C'était inimaginable.
C'était inimaginable. Et c'est pour ça que j'ai la sensation que même on est en train de réinventer peut-être une façon de vivre le temps présent et l'immédiateté des choses. Et puis peut-être notre rapport à l'autre et aux autres aussi va certainement changer, parce que je pense que je suis comme tout le monde. J'appelle tous les jours mes proches, les amis, pour savoir comment ils vont, comment ils se débrouillent de cette situation, parce que chacun... essaye de la vivre le mieux possible.
Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Ce qui me manque le plus, c'est d'être sur scène, d'être dans les studios. Vous savez, les artistes, on se dit toujours « Ah oui, là, c'est difficile, les tournées, parce que je voyage beaucoup, et puis le rythme est intense. » Puis en fin de compte, quand ça s'arrête comme ça, on se dit « Mais attendez, on est fait pour ça, quoi. On est fait pour être sur scène, pour se questionner, pour dialoguer avec le public, les autres artistes, et là, c'est difficile, même de prendre ses proches. Moi, je sais que ma maman, elle est à 200 mètres de chez moi, mais je ne peux pas aller la voir parce que c'est une personne à risque, elle a 90 ans, elle est diabétique. Donc, Voilà, je fais très attention et ça me manque parce que même si je l'ai 3-4 fois au téléphone par jour, le contact physique me manque avec elle et aussi avec mes amis. Et je pense que c'est ça le plus difficile, quoi.
Merci, Michael Pietragala. Dansez bien, alors.
On continue, coûte que coûte.
Et j'espère vous voir en novembre à Paris, dans La Femme qui Danse. À bientôt.
Ah, merci beaucoup. Au revoir.
On continue jusqu'à midi et demi notre balade téléphonique au pays du confinement général. Je vais maintenant composer le numéro de Nicolas Santolaria qui chronique notre époque technologique dans différents magazines. C'est l'auteur de Touriste, regarde où tu poses tes tongs, de D-Siri, enquête sur le génie à l'intérieur du smartphone, ou de Comment j'ai sous-traité ma vie. Pendant un an, il avait délégué à des sites et des applications spécialisées toutes les petites corvées de la vie quotidienne. C'était déjà une odyssée immobile, une répétition du confinement.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Allô, Nicolas Santolaria ?
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez fait des découvertes intéressantes depuis que vous êtes confiné ?
Écoutez, à vrai dire, c'est que mon fils qui a fait des découvertes intéressantes parce qu'on est à la campagne, en fait, dans la maison de mes grands-parents. Et donc, il s'est mis à gratter dans le jardin. Il a découvert, en fait, plein d'os enfouis là, je pense, par le chien de mes grands-parents. Mais il est persuadé, en fait, qu'il s'agit d'os de dinosaures, de vélociraptors. Donc, on était presque face à une découverte scientifique qui bouleversait le savoir en paléontologie. C'était assez rigolo, quoi. Donc, voilà, essentiellement, pour la découverte.
Quel âge a-t-il, votre fils ?
Il a 5 ans. Et c'est assez marrant parce qu'il a plusieurs amis en fait qui sont férus de dinosaures comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et du coup, je me disais, c'est assez rigolo cette passion pour les monstres disparus, quoi. C'est vrai que ça fait écho presque à notre civilisation d'une manière métaphorique, parce qu'ils sont fascinés à la fois par la puissance du T-Rex et en même temps, ils sont étonnés que des monstres si puissants aient pu disparaître si facilement. Donc voilà, je trouve que ça fait écho un petit peu à notre situation d'une manière enfantine et marrante.
Et coronavirus, ça pourrait être le nom d'un monstre d'ailleurs. Je crois que c'était le nom d'un personnage dans Astérix. Déjà, un conducteur de char. Il s'appelait
oui,
coronavirus.
Il y avait beaucoup de terminaisons en us dans Astérix.
J'ai vu que dans un de vos récents papiers, vous invoquiez le souvenir de Shining, le film de Kubrick avec Jack Nicholson. C'est vrai que c'est une histoire de confinement qui tourne mal.
Ouais, effectivement, c'est une petite photo que m'a envoyé un ami au début du confinement où il y avait Jack Nicholson qui partait en famille, en voiture, comme ça. Et puis la légende disait, on se confinait en famille, mais il n'y a aucune chance pour que ça tourne mal. Une phrase qu'il fallait lire, bien entendu, à l'envers, quoi, parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça au quotidien, H24, avec ses enfants.
Et ses grands-parents, visiblement.
Plutôt la mémoire de mes grands-parents, parce qu'en fait, ils sont disparus, et donc il y a la maison qui est toujours là. Donc je suis plutôt avec le souvenir de mes grands-parents qu'avec eux. En direct.
En effet. On dirait qu'Internet a été inventé pour nous préparer à l'épidémie de coronavirus. J'ai l'impression que sans Internet, ce serait beaucoup plus difficile. Comme vous explorez Internet et toutes les ressources du numérique depuis quelques années. Vous étiez préparé, en somme, à cette épidémie.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que je me faisais une réflexion avec cette épidémie. Je me dis, tout peut s'arrêter quasiment en France. À part le show Internet qui continue et qui semble n'avoir jamais été aussi vivace, puisque c'est vrai qu'on s'aperçoit que toutes les stars, il y a Patrick Bruel qui fait des concerts quotidiens depuis son salon, il y a Francis Cabrel qui chante depuis Astafor, il y a Fabrice Lucchini qui raconte des fables de La Fontaine. Enfin, on a l'impression que c'est un méga concert des enfoirés. Alors qu'en réalité, on imagine le confinement comme ça, quand on s'arrête juste sur le terme, comme quelque chose de où on se ressente sur soi. Et non, en fait, on s'aperçoit que le show continue comme jamais, quoi. C'est assez étonnant, je trouve.
Dans votre livre « Comment j'ai sous-traité ma vie », vous racontiez que pendant un an, vous aviez délégué à des applications, à des sites, toutes les menus travaux auxquels vous vouliez échapper dans votre vie quotidienne. Est-ce que vous continuez de les utiliser ? Là, c'est le moment, non ?
Oui, c'est vrai que c'est le moment. À l'époque, j'avais délégué mon travail, etc. Je les utilise un peu moins, à vrai dire. Aujourd'hui, je me suis aperçu en fait que de déléguer sa vie, c'était un travail à plein temps qui était presque plus épuisant que de la vivre réellement. Donc voilà, en fait, ce que j'ai continué à déléguer, c'est les livraisons, tous les services de livraison qui sont aujourd'hui vraiment sollicités avec la crise du virus. Voilà, pour le reste, je préfère essayer de continuer à vivre ma vie par moi-même dans la mesure du possible.
Est-ce que vous vous sentez surveillé ? On sait qu'il y a la géolocalisation, tout ça est en train d'être testé à l'échelle de l'épidémie.
Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de société de surveillance qui s'impose petit à petit. Après, moi, le sentiment de surveillance, il est plus, je dirais, plus banal. Par exemple, j'ai des réunions avec le travail et souvent, donc on allume la caméra, on voit chez nous, quoi. En fait, on voit l'intimité. Donc des fois, je me dis, tiens, il faut que je fasse attention parce que là, je suis allongé sur le canapé, c'est peut-être pas très. Voilà, donc j'essaye de me surveiller déjà moi-même pour donner une image encore à peu près acceptable dans le cadre de ces visioconférences qui se multiplient avec le Covid-19.
Vous continuez de vous raser, de vous habiller?
Ouais, autant que possible. Mais c'est vrai que je m'apercevais qu'en fait j'ai un jogging que je quitte pas. Donc je suis quand même en voie je sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin bon, il y a une forme de perte d'élégance, je dirais. Et hier je suis allé acheter le pain et j'ai croisé une dame qui sortait de chez elle comme ça. Il était 17h30 à peu près. Elle était en pyjama et en robe de chambre. Donc je me dis ouais, il y a quand même un effet assez poussé sur le look des gens. Je pense qu'il y a un look qui s'installe, un look quarantaine à base de cheveux en pétard et de barbe mal rasée. Il faudra voir ce que ça donne après, quoi. Est-ce qu'on arrive à revenir à une situation à peu près acceptable une fois l'épidémie enrayée?
Ça peut créer une nouvelle esthétique, hein. Vous en profitez pour faire quoi, vous?
Moi, justement, je regarde ces vidéos. Oui, je pense tout à fait que ça crée une nouvelle esthétique. D'ailleurs, je trouve que celui qui a le mieux saisi tout ça, c'est Julien Lepers avec la vidéo qu'il a fait depuis chez lui à Nice. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait il est complètement mitouflé, mal rasé, on a l'impression qu'il se réveille de la sieste et il tape du poing sur la table comme s'il était à question pour un champion en disant qu'on est un peuple latin et on a besoin de se faire la bise. Et je trouve que c'est celui en fait qui a le mieux saisi l'esthétique qui se met en place aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il est un peu, enfin je sais pas, il a réussi à capter l'air du temps, je trouve, d'une manière assez fine.
Vous jouez à des jeux avec votre fils?
Ah, j'ai réussi à éviter jusque-là, mais là j'ai vu qu'ils ont sorti le jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le Milborn, mais un jeu comme ça en lien avec la route. Après on joue, comment on peut sortir, on a une petite terrasse, on fait des tennis, des petits tennis comme ça sur un espèce de petit parvis en béton. Voilà, ouais, pour l'essentiel.
Merci Nicolas Santolaria.
Avec plaisir.
Prenez soin de vous et j'espère à bientôt.
À bientôt Frédéric, merci.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Allô, Aymeric Lomprey ?
Oui, allô ?
Vous devriez être en train de jouer Tant pis, votre one-man show, mise en scène par Pierre-Emmanuel Barré. Qu'est-ce que vous faites à la place ?
Comme d'habitude, je fais rien de mes journées. Et non, mais sinon, je cuisine beaucoup. Et puis, voilà, j'essaie d'envoyer des messages à mes ex.
Ah oui, pourquoi vos ex?
Il y a quelqu'un qui me répond.
C'est ça. Bon, vous êtes humoriste, donc vous êtes censé prendre ça avec humour. Est-ce que c'est le cas?
Je vous avoue que ça dépend un petit peu dans la journée. Le matin, ouais. Et puis, c'est plus le soir où c'est un peu compliqué. Parce que les bars me manquent énormément.
Les bars ou vos ex?
Généralement, ils sont au même endroit.
Et alors, vous les remplacez par quoi?
Là, il y avait Pornhub qui était gratuit pendant une semaine.
Oh, je parlais des bars.
Ah. écoutez, je suis confiné avec 4 amis, donc ça va, on essaie de s'amuser comme on peut, on met la musique très fort et puis on parle très fort aussi.
Mais c'est encore permis de se confiner avec 4 amis?
Oui, c'est 5 maximum. Et puis nous, ça fait déjà 2 semaines.
Ah oui. Ouais. Mais vous faites des courses à tour de rôle?
Non, c'est les filles qui vont faire les courses.
Ah oui.
Ouais, non, mais on a un petit potager aussi, puis voilà.
Vous êtes à Paris?
Non, je suis à Douai. C'est à côté de Lille, quoi.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Blanche Gardin, dont vous aviez assuré la première partie?
Et non, faut que je l'appelle. Effectivement, faut que je l'appelle, mais j'ai vu qu'elle avait mis des trucs sur Facebook. Je vous invite à aller voir son Facebook, c'est très rigolo.
Mais vous vous appelez pas entre humoristes, alors?
Si, moi j'ai pas mal Pierre-Emmanuel Barré au téléphone, et puis on se fait des...
Il va bien, je sais qu'il poste lui aussi des vidéos depuis sa maison.
Il faut aller voir ça, c'est, Une par jour, c'est exceptionnel. Mais c'est une grosse charge de travail que je ne pourrais pas fournir. Moi.
Ah bon?
Ouais.
Ben, je ne sais pas, vous préparez des blagues quand même. Vous...
Ah ouais, je poste également des trucs sur Facebook. Hein.
Oui.
Mais je fais... c'est beaucoup moins de succès que Barré.
Il y a des blagues amusantes sur le coronavirus qui circulent? Je sais qu'il n'est pas bon ton d'en rire, mais après tout, rien n'interdit de rire, ni même de réfléchir.
Ouais, non, il y a beaucoup de... Bah, je pense que le confinement amène à la créativité de tout le monde, hein. Même ceux qui ne sont pas à la base artistes. Hein. Ouais, j'ai mon chauffeur privé là, qui commence à faire des vidéos. Donc,
Votre chauffeur privé, vous voulez dire celui qui travaille pour une société de...
De VTC.
De VTC, voilà, excusez-moi. Je perds mes mots à force de rester seul, moi aussi, dans mon coin.
Et vous, ça va?
Moi, ça va bien. Est-ce que vous sortez... est-ce que vous avez été contrôlé?
Oui, j'ai été contrôlé. J'ai pris 135 euros d'amende, là.
Parce ah bon
ouais, parce qu'en fait, j'avais marqué Eric au lieu d'Emeric sur le papier. Et je m'étais trompé de prénom, quoi. Donc j'ai pris 135 euros. Non, je me suis pas fait contrôler. Non, mais je suis à la campagne et du coup, les flics, c'est nos potes. Hein.
Ah oui, ouais. Tout le monde se connaît.
Ouais, ouais, c'est ça.
Quel conseil est-ce que vous avez envie de donner à tous ceux qui nous vous écoutent pour supporter cette période qu'on espère exceptionnelle et limitée dans le temps?
Non, mais c'est exceptionnel, effectivement. Et moi, je conseille les jeux de société. Là, j'ai fait un cache-cache tout seul là, hier soir. Et bah, j'ai gagné. Donc, on fait pas mal de jeux de société, on cuisine. Et puis, la lecture et tout. Mais pas du tout la télé. Alors, j'ai complètement abandonné la télé.
Ouais.
Ouais, je ne regarde plus du tout.
Vous êtes combien de filles et combien de garçons?
Alors, c'est ça qui est rigolo, parce que je suis avec deux couples. Alors, c'est très rigolo. Je cache pas que je suis un peu à cran, mais il y a un chat. Donc, bon, bah, j'essaye.
C'est pour ça que vous essayez de joindre vos ex, je comprends ça.
Ouais.
Il reste encore une place de confinement chez vous?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je lance un message national. Hein. Je suis à Douai, voilà, je suis également sur Tinder, donc il n'y a pas de souci.
Mais ça marche encore, des applis de rencontre comme Tinder?
Bah écoutez, à Douai, je pense que ça n'a jamais vraiment fonctionné. j'y suis pas allé encore, je suis pas allé. Mais maintenant que la semaine Pornhub est terminée, je vais peut-être m'y rendre.
Vous regardez le journal télévisé, vous êtes...
Oui, je regarde Gilles Boulot, tous les soirs à 20h.
Oui, et vous tenez donc informé sur le coronavirus, et exclusivement sur le coronavirus, puisque je crois qu'on ne parle que du coronavirus à la télévision.
Ouais. Bah, apparemment, il n'y a pas assez de masques, mais Manu il va nous aider, il a dit. Donc là, on est assez rassurés.
Vous écoutez des musiques particulières?
Oui, j'écoute pas mal de rap, mais sinon non, un peu de tout, puis surtout toute la playlist Europe 1, quoi, qui nous rajeunit.
Qui est là pour ça, et moi-même je fais un effort pour passer des chansons qui parlent du coronavirus sans le savoir, puisque la plupart ont été écrites, enregistrées, sont sorties il y a bien longtemps. Vous allez en entendre une d'ailleurs dans quelques instants, mais d'abord dernière question, Aymeric Lompré, comment vous pensez que ça va se passer quand on va avoir le droit de sortir?
Bah, je pense qu'il y aura la méga bamboula. Hein. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas dit le mot bamboula, mais je pense qu'il y aura la méga bamboula. Et après, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. Là. Je pense que si on va bien voir, mais je pense que ça va être compliqué dans notre métier, donc déjà, de se remettre dedans.
Il va falloir désinfecter tous les théâtres.
Ouais, c'est ça. Et peut-être même il va en brûler certains. Mais non, je pense que ça va être... On n'a jamais vécu ça, c'est sans précédent, donc... On n'a aucune idée de savoir, même Didier Raoult, il ne sait pas comment ça va se passer.
Ah oui, c'est ça sans aucun doute. Hein, c'est... ça demandait un sacré effort d'imagination. Hein.
Ben ouais.
On a tous été un peu pris de court. Eh bien, merci Aymeric Lompré, portez-vous bien. Et on va écouter tout de suite La nuit n'en finit plus, la version française de Needles and Pins. C'était Petula Clark il y a 50 ans exactement. Écoutez-la bien, elle parle exactement de ce que vous êtes en train de vivre.
Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché, et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser.
La nuit n'en finit plus, chantée par Petula Clark en 1970, encore une chanson prémonitoire.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et l'on termine cette émission avec la comédienne Marie-Christine Barrault, que l'on a vue au cinéma dans Non, ma fille, tu n'iras pas danser, et dans La vie domestique, et au théâtre dans Enfin seul. Bonjour Marie-Christine Barrault.
Bonjour.
Comment vous portez-vous?
Je me porte très très bien.
Vous venez de fêter votre anniversaire, hein. Vous êtes née le 21 mars, comme le printemps.
Comme le printemps. Et j'étais très fêtée sur les réseaux, par téléphone. Mon fils a même réussi à me faire envoyer des fleurs. C'était un vrai jour de fête.
Ah oui, donc un anniversaire quand même très particulier. Vous n'en aviez jamais vécu un pareil.
Oui, on est rentré dans une ère où tout ce qu'on fait, on le fait pour la première fois. Oui.
Alors qu'est-ce que vous avez fait pour la première fois de plus amusant?
Ah, ce que je fais, je ne sais pas, mais ce que je ne fais plus, je sais. J'ai vraiment fait une grande coupure avec ma vie, qui, Dieu sait, me plaît infiniment, et j'espère la retrouver un jour. Mais c'était une vie quand même de course permanente, d'agenda bourré, de travail pour essayer de faire le plus de choses possibles. Et il m'a fallu 24 heures pour rentrer dans une autre peau et me dire que j'allais profiter de ce temps de retraite, de méditation et de retraite à fond. Et c'est ce que je fais, ce que j'apprends tous les jours. J'apprends d'abord que j'avais pas besoin de courir comme ça. Dieu sait que j'aime ma vie, mais j'aime ce que je fais, mais quand même, je courais beaucoup. Et là, je suis dans une espèce de présent. Je vis le présent à fond. Alors évidemment, tout ce que j'aime, je l'ai autour de moi. J'ai mes livres, j'ai la musique, j'ai tous ces films et ces séries que j'avais jamais le temps de voir, dont on me parlait, et que j'ai le temps de découvrir. J'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps d'être vraiment présente à moi-même.
Vous faites tout de même quelques courses?
Oui, mais alors très peu. Alors vraiment tous les 4-5 jours.
Ah oui, pas plus?
Non, pas plus. Et puis en plus, j'habite un quartier, j'habite vraiment le centre de Paris, alors il n'y a personne dans mes personnes. Quand je vais au petit Monoprix qui est à côté, je ne rencontre pas une personne. Et dans le magasin, je suis seule pratiquement chaque fois.
À croire que dans votre quartier, comme dans d'autres d'ailleurs, le Marais c'est un peu pareil, il n'y avait que des touristes en fait.
Mais il y a surtout que des gens qui travaillent, les bureaux.
Ah oui, c'est ça.
Moi, il y a beaucoup de touristes, bien sûr, c'est bon, les Tuileries, tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de bureaux, et j'ai l'impression que ces bureaux, ils font du travail à la maison, hein, du travail à la maison. Quand je descends, la première fois que je suis descendue, je ne suis pas descendue tout de suite, j'ai bien attendu 3-4 jours avant de descendre. Et le silence est plus impressionnant encore en bas qu'en haut. Mais j'ai la chance d'avoir un appartement qui est lumineux, qui regarde les Tuileries. J'entends le silence, mais jamais j'ai entendu le silence comme ça dans Paris. Jamais, c'est impossible, on ne retrouvera jamais ça. Enfin bref, je profite quand même beaucoup de ce temps de réflexion pour essayer de mieux me connaître.
Ah oui, bah il était temps.
Mais on peut avoir des... Mais je connaissais une partie de moi, mais là, mais d'ailleurs, je me surprends parce que au départ, d'ailleurs, mes amis étaient un peu inquiets en se demandant « Mais comment elle va faire ?» Je profite vraiment, je fais la cuisine, j'adore faire la cuisine. Alors je ne vous dis pas que je fais de la grande cuisine, mais je fais un peu de cuisine. Je lis énormément, j'écoute de la musique tranquillement, j'écoute des opéras en entier. Enfin, toutes ces choses que je n'arrivais plus à faire depuis longtemps.
Vous allez à la pharmacie de temps en temps, vous êtes...
Alors, je n'y ai pas encore été. Je pense que je devrais y aller parce que j'ai une ordonnance qui court d'ici une petite dizaine de jours. Non, mais j'achète. J'ai un kiosque. Il y a un kiosque qui vend les journaux au bout de la rue. Donc j'achète le Monde et j'achète des journaux de temps en temps. Pas tous les jours, parce que je ne descends pas tous les jours. Mais ça m'a fait bien plaisir de voir que les journaux étaient là.
Vous continuez donc de vous informer, pas seulement à la télévision?
À la télévision, j'ai un peu coupé, parce que les premiers jours, je regardais, et puis j'ai l'impression qu'on devient fou de regarder toute la journée la même chose. Donc je n'ouvre pas la télévision avant 18h, 18h, 18h30. Là, je fais un petit point, et puis après j'arrête. Mais je me tiens informée. Vous savez qu'aujourd'hui, on est forcément informé avec les téléphones partout. On a les notifications, comme ils disent.
Ouais.
Je dois dire que si c'était pas une période épouvantable de mort, de tragédie, de gens qui sont rentrés dans une violence extrême, j'aimerais assez cette période. En ce qui me concerne, là, dans mon petit univers égoïste, je ne déteste pas cette période. Mais bon, on sait aussi le prix qu'elle coûte, cette période. Et puis, je réfléchis quand même beaucoup à la vie dans laquelle on vit, la société dans laquelle on vivait. J'espère quand même qu'on va tous un petit peu grandir et s'écouter plus, se regarder plus, se considérer plus et ne pas être dans cette course unique à l'argent et à la réussite.
Vous n'êtes pas angoissée? Vous n'avez pas peur d'attraper quoi que ce soit?
Pas une seconde. Mais alors, pas une seconde. La peur ne passe pas par moi. Mais pas une seconde. C'est fou même. Bon, je dois dire qu'en même temps, mes enfants sont à l'abri. Mon fils est parti avant même toutes ces histoires. Il est parti puisqu'il ne pouvait plus travailler. Il est tout annulé. Il est parti vivre à la montagne dans une maison qu'on a en Haute-Savoie avec tous ses enfants et le chat, comme il dit. Ce qui est très important parce que s'il a emporté le chat, emmener le chat, c'est que vraiment, il compte rester là-bas un certain temps. Ma fille continue à travailler aussi à Paris, mais elle est tous les gens autour de moi sont bien. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je suis désespérée de ce que vivent ceux que je ne connais pas. Mais un jour, peut-être, ça va se rapprocher de moi. Et là, je vais commencer à ressentir les choses plus dans ma peau. Mais là, pour le moment, non, j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur, d'ailleurs. Même au départ. C'est le jour où, la veille du confinement, moi, je partais en Turquie. J'allais faire des lectures en Turquie, à Istanbul et Ankara. Donc quand on m'a dit « demain matin, tu ne pars pas », je l'ai pris presque comme quelque chose de personnel, en me disant « oh là là, ce que c'est embêtant, cette annulation ». Et puis 24 heures plus tard, évidemment, tout ça n'existait plus. J'étais prise dans l'engrenage et la globalité. Et je vis ça sereinement, vraiment, je peux le dire. Et même tous ces spectacles auxquels je tiens tellement et dont on me dit qu'ils sont reportés, et quand on me demande des dates et tout, j'ai dit non, ne me parlez pas de dates maintenant. On vit ce qu'on a à vivre maintenant, on verra après.
Et donc, vous le vivez bien
Ah oui. Ah oui, vraiment. Là, je suis en train de lire un livre magnifique qui a 800 pages. En temps normal, je ne sais pas à quel moment j'aurais pu le lire. Et là, je le lis avec délectation. Je me réveille le matin en sachant que je vais le reprendre.
C'est Guerre et Paix?
Non, c'est pas Guerre et Paix. C'est un auteur cubain qui s'appelle Padura, Leonardo Padura. Et le livre s'appelle « L'homme qui aimait les chiens » et c'est toute l'histoire de l'assassinat de Trotsky. Donc on suit à la fois Trotsky dans ses différents lieux d'exil et puis le garçon qui va le tuer. Qui
ah, attendez, ne racontez pas la fin.
Ah non, mais on le sait la fin parce que tout le monde sait que c'est ce garçon-là qui l'a tué.
Je plaisantais.
Mais on les suit. Et alors il y a beaucoup d'enfermement dans ce livre parce que Trotsky, partout dans ses exils différents, il est toujours enfermé. Le garçon en question aussi, ils sont tous enfermés. Il y a Staline qui est au-dessus d'eux et qui plane et qui fait peur. Il y a beaucoup de sentiments que je peux ressentir un peu par rapport à la situation actuelle. Mais jamais on a cette disponibilité-là. Jamais on l'a sur une telle longueur, jamais.
Merci Marie-Christine Barrault de nous avoir remonté le moral.
C'est pas les gens vont dire que je suis folle.
Mais non.
Inconsciente et folle, mais c'est le contraire. Je pense que je suis plus consciente que jamais de ce que vaut la vie.
Et plus sage que la plupart d'entre nous.
Et beaucoup plus sage qu'avant aussi.
Merci.
Que les autres, je ne sais pas, mais par rapport à moi, oui, il y a un vrai chemin.
Merci Marie-Christine, portez-vous très bien et j'espère quand même à bientôt.
Oh ben j'espère. Au revoir.
Cette émission se termine. Je vous souhaite un très bon dimanche, une bonne semaine de confinement et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade téléphonique.